Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 17 novembre, 27, c'est plus tard, 17 novembre 2014, avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex pour faire un tour d'horizon de l'actualité mondiale, internationale tout d'abord. Alors, sur quoi ouvrir ce soir? Michel, tu as peut-être une idée de sujet? T'as une préférence? Non. Allez, ben on va ouvrir allez, sur la Roumanie, tiens, puisqu'ils viennent de lire leur président. Ils ont cru qu'ils allaient en élire un, enfin les journalistes du moins, et finalement ils en ont élu un autre. Alors, entre un sociodémocrate et un candidat de droite, on sait bien en France, nous, qu'il n'y a pas grande différence. Chez eux non plus, je suppose, mais finalement, surprise, tout le monde attendait un certain Victor Ponta, premier ministre de son État, SOSDEM, et fait finalement, avec 50%, un Klaus Johannis, qui a gagné. Et alors, pourquoi, comment? Ben parce que les électeurs ont davantage voté pour lui. Est-ce que c'est la corruption des sociodémocrates qui a justifié ce revirement ou un certain goût du changement? Toujours est-il que voilà, les Roumains engagés dans une cohabitation, parce que le président va être de droite et le premier ministre d'une gauche relative.
Oui, je pense avant tout, on a voté pour le candidat, c'est pas tant le candidat de droite libérale que pour Klaus Johannis. Alors, juste rappeler, c'est pas la moindre des choses, que Johannis fait partie de la minorité allemande, hein, c'est un saxon roumain, donc de Transylvanie, maire de Sibiu, qui fait figure un peu de carte postale pour ceux qui connaissent un peu la Roumanie, et donc avec le slogan « Ce que j'ai fait pour Sibiu, je peux le faire pour la Roumanie ». Alors, comprendre un peu les mentalités roumaines, la classe politique roumaine est traitée par ses concitoyens de bien souvent d'être totalement corrompue, incompétente, enfin tous les clichés un peu qui vont avec cet esprit, on va dire, d'Europe de l'Est ou balkanique. Et l'allemand hein, en question, donc le saxon, lui, effectivement, fait figure d'homme de l'ordre, du respect de la loi, des règles. Et je pense la surprise de ce vote tient aussi à ça. C'est-à-dire que Johannis a tellement joué donc sur cette figure de la personne respectable, droite, qui allait totalement à l'encontre de toute la succession de scandales qu'il y a eu en Roumanie dans la vie politique ces dernières années. Et c'est ce qui explique aussi cette très très grande surprise hein, entre Ponta, qui était donné largement vainqueur il y a encore quelques jours, et lorsque les gens ont réellement voté. Et avec ce résultat donc inespéré, donc rappelons juste 61% donc de participation, ce qui est très élevé pour la Roumanie.
Ouais. D'ailleurs, on ne sait pas trop d'ailleurs cette participation si elle inclut la diaspora. Or la diaspora, c'est 3 millions d'électeurs potentiels qui au premier tour se sont plaints de ne pas pouvoir participer au vote, puisque une toute petite minorité, 160 000 seulement de ces gens de la diaspora avaient pu voter. Et les sondages auprès de cette diaspora montraient qu'elle était à 46% favorable à Johannis et seulement 15% pour Ponta, ce qui fait que l'élection effectivement s'est jouée à partir du vote de l'extérieur. Alors cette diaspora, qu'est-ce que c'est ces Roumains qui ont quitté la Roumanie depuis plusieurs générations peut-être. C'est une situation qui était aussi possible prévisible, à l'intérieur des frontières, Ponta est majoritaire, mais donc sur la comptabilité globale, il était minoritaire, et c'est ce qui ressort au soir de cette élection. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un résiduel peut-être, mais qui tente à prendre du poids, et c'est d'ailleurs vrai dans l'ensemble des anciens pays dits communistes, c'est que résiduel, il y a un parti communiste. Alors là, il est éliminé dans le cadre des présidentielles. L'année prochaine, il y aura les élections législatives et il va apparaître. Et beaucoup de ces communistes, alors c'est peut-être l'ancienne génération, parce que on essaye de faire que la jeunesse soit le moins possible informée de ce qu'avait pu être les bienfaits en termes d'égalité, peut-être pas forcément en termes de liberté, mais en termes d'égalité, le modèle communiste. Mais les anciens disent, ah, quand même, sous Ceausescu, c'était quand même mieux.
Oui, juste à rappeler, une fois de plus, hein, on a voté avant tout pour le candidat, donc sur l'image du candidat Johannes Klaus, on n'a pas voté tant que ça pour le candidat de droite. Hein. Ça n'a pas été un vote politique, ça a été un vote effectivement de changement par rapport à la classe politique qui apparaît aux yeux des Roumains et aux yeux de la diaspora, qui, pour la plupart d'entre eux, sont de la première génération. Ce sont des gens qui sont partis massivement dans les années 90, qui sont installés en Europe occidentale. Il y a des très grandes communautés roumaines en Italie, en Espagne, en France aussi, en Allemagne, hein, en Autriche. Et qui rentrent au pays assez souvent et donc qui ont voté sur celui qui, à leurs yeux aussi, pouvait amener un réel changement donc, dans la classe politique roumaine.
Et la première déclaration du nouveau président, elle est claire et sans ambiguïté sur le plan des choix politiques. Il a dit, eh bien, comme ça, nous sommes bien adossés, les États-Unis, l'OTAN et la communauté européenne.
Tout à fait.
Hein, il avait la trilogie toute prête.
Ah, tout à fait, mais il ne faut pas s'attendre, effectivement, c'est le vote, rappelons-le, c'est pas un vote d'idéologie, c'est un vote pour quelqu'un qui est lisse, qui est, rappelons-le, de la minorité saxonne, qui est protestant, hein, comme le sont donc les Saxons de Transylvanie, ils sont luthériens, qui sont aujourd'hui quelques dizaines de milliers, hein, encore en Roumanie, alors que c'était de fait, hein, historiquement, rappelons que la Transylvanie faisait partie de l'Empire austro-hongrois et que c'était les nobles, c'était la bourgeoisie locale, les Allemands, il y a à peine 100 ans dans la région. Donc ils ont pratiquement disparu en tant que corps social. On n'aurait pas pu voir la même chose avec, par exemple, un candidat hongrois. Les Hongrois, 2 millions de personnes, donc très importante minorité en Roumanie, ont des revendications donc qui sont irrédentistes, hein, pour les Roumains. Donc d'aucune, un Roumain de souche n'aurait pu voter pour un candidat issu de la minorité hongroise. Alors que c'était tout à fait possible, puisque voilà, Johannes ne s'est pas présenté au nom de la minorité saxonne. Hein, il s'est présenté comme le candidat, alors que tu as dit effectivement la trilogie, OTAN, l'Union européenne. Là, rien ne va changer. Hein, mais juste celui qui va remettre un peu d'ordre, nettoyer la rigueur un peu saxonne, protestante, qui manque tant aux Roumains orthodoxes.
Voilà, autre sujet important et très international, c'est le G20 qui s'est terminé hier, on peut bien dire en autre boudin. Pendant tout le G20, c'était accuser Poutine, levez-vous. Du coup, l'accuser Poutine, il a fini par faire l'école buissonnière à la fin. Ça n'a pas empêché le G20 de se tenir et de parler d'autre chose que de ce dont il devait parler, à savoir la régulation financière et les paradis fiscaux. Mais ils avaient un sujet en or très chaud à traiter, c'était l'Ukraine, et on ne s'en est pas privé. Donc tous les Occidentaux arrosent sur le beau des Poutine. et qui ont estiré des gueules, hein, si vous avez pu voir les photos à la télé, les uns et les autres, c'était pas triste, quoi. Du coup, un G20 pour rien, pratiquement, puisque on s'est quitté en constatant ces divergences, même si Poutine, avec un brin d'humour, a salué l'atmosphère constructive et très utile du sommet. C'est assez bidonnant, mais enfin c'est comme ça, la diplomatie et la politique.
Ah oui, mais chacun son point de vue, hein. Le G20, c'est pas seulement les États-Unis et ses affidés, hein, les pays occidentaux, à savoir les pays occidentaux, je veux dire européens, plus le Canada, plus l'Australie, plus ceux comme le Japon ou la Corée du Sud qui ont remis leur politique étrangère à Washington. C'est aussi les pays membres des BRICS, hein, donc l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, et là ça compte en point démographique, et donc c'est ce qu'a mis en avant Poutine, c'est savoir qu'au sein même de cette réunion du G20, alors qu'il a essayé d'être ostracisé par les pays anglo-saxons, accusé comme tu dis, lui il met en avant qu'il en a profité pour renforcer quelques liens au sein donc des BRICS. Donc voilà, donc pour lui cette réunion apparaît constructive. En gros, pour pas parler en langage diplomatique, il a dit les Occidentaux, je vous emmerde, je fais ce que je veux, et c'est pas vos menaces qui vont me faire changer de politique. Et je décide de ce que je veux, et je décide même effectivement d'ignorer la réunion de clôture. C'est pas pour recevoir des leçons de morale, donc je m'en vais. J'ai eu à faire ce que je devais faire, à savoir rencontrer les membres des BRICS. Pas tant que c'était important, mais pour ma communication propre, hein, parce que mes relais, l'agence russe Itartas et tous les relais russes ont bien donc montré ces images, hein, donc de comment dirais-je, au sein des BRICS de fructification des échanges, et totalement ignoré voilà les redemontades de l'hôte australien Abbott et des occidentaux.
Hollande, quant à lui,
je crois qu'il y a eu aussi quelques petits échanges sur le climat, parce que c'est effectivement le sujet le plus préoccupant, beaucoup plus préoccupant même que l'Ukraine, au moins pour le moyen et le long terme. Et on en a parlé dans les couloirs, et surtout que ces discussions intervenaient quelques jours après la signature que l'on a dit historique entre la Chine et les USA et les États-Unis sur la réduction des gaz à effet de serre dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Et c'était important parce que d'un côté, il y a le pays qui par tête d'habitant est le plus polluant, c'est-à-dire les États-Unis, et de l'autre côté, le pays qui globalement est le plus polluant, simplement parce qu'il a la plus forte population mondiale. On en a discuté, mais ça n'a pas vraiment été, on va dire, utilisé médiatiquement dans la communication.
Enfin, Hollande, lui, était très content de pouvoir... Enfin, il prépare son sommet de décembre 2015 sur le climat, et finalement, c'est surtout ça qu'il a beaucoup... Oui. Il s'est fait valoriser avec ça, quoi. Les Mistral, par contre, il n'a rien dit.
Non, ce n'était pas à l'ordre du jour, même si, au sein même donc des pays du G20, certains se rendaient compte que la politique des sanctions vis-à-vis de la Russie avait tendance à se retourner aussi contre leur intérêt. Donc Merkel avait en coulisses évoqué un peu cette préoccupation-là, donc avec ses partenaires, à savoir qu'il fallait peut-être de nouveau moduler, puisque officiellement l'Union européenne s'apprête, hein, à partir de cette semaine, de renforcer les sanctions, donc de peut-être revenir à la table de négociation, de mettre un peu le holà, donc de pas aller de manière trop précipitée, parce que pour l'instant, si effectivement il y a un impact réel sur la Russie, sur l'économie russe, ça a aussi tendance à se retourner contre les pays membres de l'Union européenne.
Oui, et alors, puisqu'on en vient, on est presque sur l'Ukraine, là, on peut noter cette décision un petit peu étonnante de l'État légaliste ukrainien de retirer toute son administration des zones autonomistes, quoi. Tout se passe comme s'ils acceptaient la partition et qu'ils la reconnaissaient en la mettant en place, quoi. Est-ce qu'il faut interpréter ça comme ça?
C'est difficilement, ça, c'est, on dirait une gaffe hein, de la part de Porochenko là, sur le coup, parce que, en gros, comme tu l'as dit, hein, c'est une forme de reconnaissance qui ne dit pas son nom, donc de l'autonomie ou quasi-indépendance donc des principautés, pour ne pas dire des républiques, de Lugansk et de Donetsk. Mais dans le même temps, ça veut dire peut-être que l'option pour Kiev n'est plus à la discussion, c'est vraiment à la récupération de ce territoire coûte que coûte, et à donc à considérer la population qui est restée, hein, parce que beaucoup de gens aussi, pour pouvoir bénéficier de leur retraite, ont choisi de partir de Donetsk et d'aller s'installer dans les zones sous contrôle ukrainien. Il faut le comprendre aussi, hein, les motivations ne sont pas politiques, elles sont juste d'ordre existentiel pour beaucoup de gens. Et donc c'est peut-être une manière de dire effectivement que la seule option maintenant qui reste, c'est l'option militaire.
Ouais. Est-ce que l'Ukraine légaliste a les moyens de s'opposer à ce que les autonomistes, et surtout les Russes, ont investi comme moyen en hommes et en matériel, quoi?
Ah ben, sur le papier, on va dire, c'est pas les deux petites républiques de Lugansk et de Donetsk qui peuvent, hein, qui peuvent abattre l'armée ukrainienne. Mais je veux dire, bien sûr, je plaisante. Les Russes aident logistiquement et d'un point de vue du commandement cette armée qui s'est constituée donc à Donetsk et Lugansk, sans le dire. Hein, et de l'autre côté, ceux qui ont décidé aussi maintenant de la stratégie à adopter face à ces républiques sécessionnistes, faut peut-être plus les chercher à Washington qu'à Kiev, hein, malheureusement. Ce qu'on ne dit pas là aussi, c'est-à-dire que sur la stratégie qui a été mise en place, et il semblerait que ce sont les Occidentaux qui décident. Là, on va un peu, pour l'instant, sur le scénario qui a été essayé d'être mis en place, de scénario croate. Hein. Souvenons-nous, en 1991, l'indépendance de la Croatie, une partie de la Croatie peuplée de sa minorité serbe refusait en l'état cette indépendance, jugeant que ses droits constitutionnels n'étaient pas garantis, faisait sécession, une guerre, et puis du moins une ligne de front gelée pendant des années. Des sanctions votées contre la Serbie qui aidait logistiquement et militairement les Serbes de Croatie, à savoir des Krajina. Et donc, petit à petit, bien entendu, les Krajina étaient économiquement très affaiblis et on a récupéré ce territoire militairement en 95, en août 95 en Croatie. Donc on s'oriente un peu vers ce scénario. D'un côté, on essaie d'affaiblir la Russie. On maintient le prix du pétrole très bas, hein, de manière là aussi artificielle, quoi qu'on en dise, parce qu'on rentre dans l'hiver, donc en théorie, il devrait un peu se surenchérir, hein, ce prix du pétrole. Eh bien non, là, de manière étonnante, les États-Unis demandent à leur grand allié, l'Arabie Saoudite, hein, première réserve mondiale de pétrole, de mettre sur le marché à tout va du pétrole. Et on en est là, pour l'instant, à des tarifs qui sont aussi aux alentours de 80-85 dollars, alors qu'ils étaient à plus de 115, pratiquement 118 dollars, il y a encore quelques mois. Alors là où on en est un peu peut-être moins besoin, à savoir pendant l'été, parce que n'oublions pas, hein, c'est quand même l'hémisphère nord qui le consomme, hein, c'est pas l'hémisphère sud qui consomme ce pétrole-là. Donc on voit bien que la politique est dictée par Washington, donc politique des sanctions. Donc on demande à l'Union européenne d'imposer des sanctions contre la Russie. Les Américains n'en pâtissent pas, c'est surtout les Européens qui en pâtissent, puisqu'il y a l'effet boomerang. Et d'un autre côté, donc, on demande aussi aux Saoudiens de bien vouloir perdre un peu d'argent, hein, bah, après tout, voilà, pour œuvrer aussi dans ce sens-là. Donc on voit bien cette guerre géostratégique imposée par Washington, et les conseillers militaires américains sont omniprésents aussi à Kiev. Et c'est là où, effectivement, faut peut-être chercher les solutions à ce conflit-là. N'oublions pas que, et les Russes, mais aussi les représentants pro-russes à Donetsk, il y a encore quelques mois, ne se battaient pas pour l'indépendance, mais se battaient pour une Ukraine fédérale. Hein, donc, ils voulaient, effectivement, un statut d'autonomie très large au sein de l'Ukraine. Chose que Kiev a systématiquement refusée. Donc on voit bien là, celui qui pousse les pions, c'est Washington avant tout. Washington a décidé de la politique du pire et est prêt donc à cet état qui est complètement défaillant, qui est l'Ukraine, à le soutenir militairement, hein, mais de manière indirecte bien sûr. Hein. On est aussi dans le un peu dans la guerre de Corée là. Hein. La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont battus, mais pas directement entre soviétiques et américains. Mais bon, ils étaient juste derrière. Donc on va un peu sur ce scénario donc de monter des tensions, monter des sanctions. En espérant effectivement que la Russie va rentrer dans l'ordre, parce que les effets vont être de plus en plus accrus sur la population, et notamment en rentrant dans l'hiver.
Omer, c'est ta vision des choses aussi ?
Oui, 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 je partage cette analyse, oui.
Alors un autre sujet peut-être ? Oui, je te proposais de démarrer sur un sujet.
Oui, sur le sujet qui également fait conflit international, même s'il est localisé apparemment, c'est toujours la lutte contre Daesh, c'est-à-dire ce mouvement islamiste radical qui visiblement a trouvé un terrain facile après le chaos qui règne en Iran et partiellement en Syrie, mais qui est aussi un enjeu aussi bien pour l'ensemble du monde arabe que pour le monde occidental. Bon, ce soir, il n'y a pas d'informations nouvelles, si ce n'est cette émotion provoquée naturellement par la mise à mort non seulement de soldats syriens, on ne sait pas trop irakiens, mais également donc de cet homme, cet Américain, qui peut-être a eu le tort d'avoir été d'abord soldat contre les islamistes, avant de changer, de retourner sa veste et de devenir un bon islamiste qui donnait dans l'humanitaire. Alors visiblement, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Bon, peut-être que dans toute hypothèse, il aurait quand même été exécuté. Et s'ajoute à cela, bon, en France notamment, ce débat émotionnel sur les jeunes gens qui se sont engagés là-bas et dont un ou peut-être deux auraient participé aux exécutions, aux récentes exécutions. Mais à cela, il est un peu peut-être hypocrite en France d'être à ce point dans l'émotion. Il faut se souvenir que depuis des années, au moins depuis 2 ans, en France comme dans toute l'Europe, mais en France tout particulièrement, le discours est pour la destruction du dictateur Bachar a tenu le haut du pavé. Et pas étonnant que trouver des jeunes qui pourrait presque dire mais j'ai obéi à Hollande en partant là-bas pour participer à la lutte contre Bachar et tous ceux qui lui ressemblent.
Tout à fait. Oui, à Hollande ou à Laurent Fabius.
Oui, je parle en général, oui, l'équipe, enfin le pouvoir en France. Oui.
Le Quai d'Orsay était vraiment en pointe pour diaboliser Bachar al-Assad, pour couper tout pont, pour justement l'ostraciser et à force de crier au diable, de nous le montrer comme le persécuteur des citoyens, enfin syriens, mais aussi de la communauté musulmane. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on ait beaucoup de nos concitoyens, donc de confession musulmane, qui sont partis donc par idéologie, aider leur corréligionnaire. Mais on a parlé plus d'une fois, c'en est grotesque, c'est-à-dire on est toujours à la recherche de cette armée syrienne libre. On a beau la chercher, on n'arrive pas à la trouver, hein. Sur le papier elle existe, hein. Oui, à Londres aussi il y a quelques émissaires de cette fameuse armée syrienne libre, mais depuis maintenant près de 3 ans on ne voit rien sur le terrain. Ce qu'on voit effectivement, c'est l'opposition, elle est fanatisée, elle est islamiste, elle prône donc le califat, elle prône donc si jamais elle gagne la bataille en Syrie, en Irak, donc l'instauration d'un califat et donc le déni total de toute minorité non musulmane. Et on ose aujourd'hui donc s'en étonner. Donc juste à rappeler aussi que Bachar al-Assad, c'est une dictature, mais Bachar al-Assad, c'était une zone de stabilité. Bachar al-Assad, c'est le respect donc des différentes confessions, qu'on soit chiite, alaouite, chrétien, sunnite, c'était une réalité. Aujourd'hui, on a le chaos généralisé, et ce chaos généralisé dans toute la région répond peut-être aussi, on l'a dit, hein, à l'agenda des États-Unis dans la région. On préfère avoir un chaos généralisé et sous surveillance que des États qui sont forts et qui ne nous obéissent pas.
Voilà, on va peut-être parler un peu de l'Afrique aussi, où il y a quelques petites choses à dire. Ben déjà, le Burkina Faso, alors là aussi, c'est la surprise dans, je sais pas s'il faut parler de bon sens, mais on a presque envie quand même, puisque les militaires qui avaient pris le pouvoir avaient annoncé que dans les deux semaines, ils le rendraient aux civils, et toc, surprise, c'est fait. Un certain Michel Kafando, qui était un type ancien ambassadeur à différents endroits pendant différentes périodes, de 72 ans, a été promu président par intérim. Il a accepté le poste pour servir son pays. Et puis, on a déjà 5 candidats désignés pour la présidence à venir qui est annoncée. Donc, un processus de démocratisation à peu près normal, qui surprend beaucoup de monde, et on se surprend nous aussi à dire que si ça pouvait déteindre un peu sur un certain nombre de pays d'Afrique, ce serait pas mal, parce que il y a une vingtaine de pays qui ont des gens en place au pouvoir depuis 15 à 30 ans et qui entendent ne pas le lâcher. Donc là, on a un exemple, semble-t-il, de, faut pas trop s'emballer sur les révolutions, on a connu les printemps arabes, un exemple de révolution populaire qui débouche sur une solution politique qui paraît démocratiquement intéressante.
Et avec cette réserve que la constitution du Burkina prévoyait que c'était le président du Parlement qui devait assurer l'intérim. Bon, donc, on est bon, effectivement dans un processus relativement démocratique, comme tu l'expliques, mais ce n'est pas tout à fait le respect de la loi burkinabé.
Oui, pour l'instant... Non, ce qu'on peut rajouter, c'est que ça se passe au Burkina Faso, qui n'est pas le pays plus prospère. Le Burkina ne repose pas sur des mines géostratégiques, comme par exemple les mines d'uranium au Niger, ou sur des réserves de pétrole ou de gaz. C'est peut-être aussi pour cette raison-là que le processus a pu se faire. On a vu dans le même temps la rue hein, donc se soulever contre Compaoré, mais être relativement raisonnable, à savoir on voulait vraiment un changement politique. Il y a eu somme toute des pillages, mais rien à voir avec ce qu'on avait pu voir lors des émeutes précédentes dans d'autres pays de la région. Bon, alors il y a peut-être une émergence d'une conscience, d'une classe qui nous a amené donc à ce résultat-là, mais peut-être aussi que on est prêt au sein de l'élite burkinabé à se partager le pouvoir et à le faire de manière par voie électorale, je vais pas dire démocratique, parce que voilà, chacun sent aussi que voilà, personne n'a peut-être assez d'assises pour pouvoir prendre le pouvoir par la force. Voilà. Ça tient
sauf
peut-être
les
à ça.
Militaires, quand même.
Sauf les militaires, mais.
Voilà.
Mais même les militaires, on ne peut pas non plus dire, mis à part d'avoir la force avec eux, qu'ils ont le soutien en profondeur dans la population.
En tous les cas, tout le monde est content. La France est contente. L'Union africaine est contente. la France qui d'ailleurs, France-Afrique bien entendu, on a pu penser à un moment que la France n'était pour rien dans l'éviction de l'ancien président. Ben, on s'est vite rendu compte, en apprenant un petit peu les choses qui s'étaient passées, que la France était bien intervenue, puisqu'elle avait mis à sa disposition un hélicoptère sur le trajet de sa fuite, pour lui éviter d'être lynché en particulier. Et donc, on voit bien là aussi la patte de la diplomatie militaire française en Afrique, cette fois encore.
C'était le monsieur bon office de la politique française dans la région, Campoiré. Donc c'était le minimum qu'on pouvait faire pour nos alliés fidèles.
Un mot du Tchad, si on veut, mais enfin du Nigeria, je pensais, où la ville de Boko Haram semble avoir subi un revers avec une reprise par les militaires de la ville de Chibok, celle qui avait été l'objet de l'attaque où ils avaient enlevé les jeunes lycéennes. Et un président donc qui annonce ça en renfort de trompette, de manière sans doute aussi mieux préparer sa candidature à sa succession l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur l'Afrique? Pas grand-chose. Robert, un autre sujet?
Et rappeler qu'on a célébré en Palestine et un peu de partout dans le monde, pour ceux qui l'ont soutenu, les 10 ans de la mort de Yasser Arafat. Et à cette occasion, les prisonniers politiques dans les prisons israéliennes ont manifesté, bon, déjà un certain nombre d'entre eux, depuis plusieurs mois, mènent des grèves de la faim. Et Marwan Barghouti a pu faire sortir un texte qui a été rendu public, et donc, et avec toute l'autorité que représente Marwan Barghouti à l'extérieur. Et dans cette lettre, alors, il prenait à son compte, mais il ne faisait que citer Yasser Arafat, quand Yasser Arafat disait que les nécessités de la résistance globale et armée. Mais évidemment, les Israéliens tout de suite ont dit oui, bon, c'est Barghouti proclame qu'il faut continuer la lutte armée. Donc immédiatement, on l'a mis à l'isolement, et puis les brimades vont continuer sur sa personne. On peut rappeler que Barghouti est déjà emprisonné depuis, je crois, une douzaine d'années.
Voilà, d'autres sujets internationaux, on fait une pause musicale.
Je veux dire un mot de la Serbie, de Vojislav Šešelj. La semaine dernière, un des plus célèbres prisonniers serbes, détenu à Šabeningen, jugé à La Haye par le tribunal pénal international pour l'exécution de sa vie, a été relâché au bout de pratiquement 12 ans donc d'enjôlement, d'isolement donc à Scheveningen, à La Haye, et bon, pour cause médicale, il souffre d'un cancer du côlon. Il avait déjà été opéré en 2013, mais il y a des métastases au niveau du foie, donc on a accepté le fait qu'il soit relâché. Revenir sur ce cas un peu symptomatique du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est que ce Vojislav Šešelj, tout fou qu'il est, pour ceux qui ont un peu en mémoire, donc c'était le chef du parti radical serbe dans les années 90, opposant à Milošević, plus à droite, pour pas dire à l'extrême droite, du président Milošević, qui était lui Paracic du parti communiste.
Ils sont plus nationalistes, droite, extrême droite, oui. Dans ces moments-là, ça ne veut pas dire grand-chose.
Plus nationalistes, on va dire les choses comme ça, mais bon, tous les partis à cette époque en Serbie étaient vraiment nationalistes. Toujours est-il, il n'avait aucune espèce de fonction élective à l'époque, et donc il haranguait les foules, et il demandait à ce que les Croates de Serbie soit déporté vers la Croatie, qu'il fallait régler leur compte à la population musulmane en Bosnie. Et somme toute, des tas de chefs d'inculpation donc pour propagation de la haine, de l'élimination, enfin de d'autres peuples. Mais de fait, il avait aucune espèce de fonction à cette époque, et donc il s'était rendu lui-même donc lorsque on avait demandé. Lorsqu'il avait reçu son inculpation, donc c'était le seul, on va dire chef, même pas chef politique, mais aucune fonction au sein de l'État, et ni des armées, il n'avait pas de milice qui lui obéissait en propre, directement. Et donc il a attendu son jugement, il a attendu quand même 10 ans avant qu'il commence, et première chose, c'est dire comment marche le tribunal pénal international. Il a attendu plus de 10 ans, et lorsqu'il a commencé, ça a été du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, sous couvert donc de ce cancer du côlon, c'est surtout que le tribunal pénal international continue à marcher. On pourrait se poser la question avec quel fond et avec quel enjeu politique tourne complètement à vide et n'avait pas donc les moyens donc de en termes de preuves d'inculper Vojislav Šešelj. Celui-ci revient donc à Belgrade, continue donc à insulter tous ceux de la classe politique qu'il estime avoir été des traîtres, à commencer par ceux qui sont anciennement membres de son parti et qui aujourd'hui sont en fonction, à savoir le président Tomislav Nikolić et le premier ministre Vučić, en les traitant de traîtres, acquis à la cause de l'Union européenne, et j'en passe. Et étonnamment, donc, il arrive à regrouper aujourd'hui autour de lui des gens qui sont de différents partis. Donc, on ne se cache pas, c'est un boulet donc pour la Serbie. La Serbie ne sait pas quoi en faire. Dans le même temps, il faut soigner cette personne. La Serbie qui veut... donc un peu rétablir ses liens, les normaliser avec la Bosnie et la Croatie, et essaye de se retrouver un peu gêné dans la mesure où officiellement Sarajevo et Zagreb ont demandé que Šešelj réponde aussi devant la justice bosnienne et la justice croate, donc il est hors de question de l'extrader. Voilà, donc c'est assez symptomatique. Depuis une semaine, c'est la personne, on ne sait pas quoi en faire, donc et il est là et il pourrit l'ambiance, quoi. Mais je voulais juste revenir sur ce fait, c'est que d'un point de vue médiatique, on s'est bien gardé de nous parler du fait qu'on ait relâché Vojislav Šešelj, et pour cause, c'est que d'un point de vue pédagogique, alors qu'on nous a présenté ce tribunal comme ayant une vertu avant tout pédagogique pour la conciliation entre les peuples, il s'avère que ceux qui l'ont soutenu depuis le départ le soutiennent encore aujourd'hui et estiment effectivement que c'est une forme de martyr donc des Occidentaux, et que leur cause était finalement somme toute juste et qu'il fallait qu'elle s'en valait la peine. Donc juste dire que les positions des nationalistes bosniaques, croates et serbes n'ont pas changé d'un iota malgré ou à cause de la création de ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Voilà, ainsi se termine notre partie internationale. On fait une courte pause musicale avec les Pek Bienzen qui seront sur scène au Ninkasi à l'initiative de Tout Bout de Chance ce vendredi 21. C'est pas tout à fait donné, 27 euros.
Come into my walls, you standing all alone. Let's try a brand new start. Oh baby, please come on. Let's come into my walls, you know I won't be long. Let's come into my arms, I could be very strong. Let's dance. Let's dance. Let's take your chance with me. Dance, oh dance, you will be all to see.
can teach you to waltz. One, two, three, one, two, three. You will forget the past, but never forget me. And three little steps forward, you just have to follow. It's not very hard, so just let yourself go. Let's dance, let's dance, let's take your chance with me. Dance, pole dance, the trance under your feet. We don't know our names, and we don't know our lives. You know, I could be your man, and you could be mine.
Écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 17 novembre 2014 avec Robert, qui je donne la parole pour nous parler des manifestations de samedi. 100 000 personnes.
Manifestation de samedi à l'appel du collectif 3A, 3A, la lettre première de notre alphabet, 3A qui se décline alternative à l'austérité. Donc on a compris, c'était une journée de 15 novembre qui était entièrement mobilisatrice pour dénoncer le programme austéritaire du tandem Hollande-Valls et de leurs compagnons. Des manifestations multiples dans beaucoup de villes françaises, avec un rassemblement un peu plus fort à Paris, de l'ordre de 20 à 30 000 personnes, peut-être plus. Évidemment, les chiffres de la police sont toujours très, très inférieurs à cela. Des manifestations qui, surtout, sans être massives, ont fait que se sont retrouvés la plupart du temps dans les rues, aussi bien on va dire la gauche la plus radicale, c'est-à-dire les groupes du Front de Gauche, le NPA et puis certains qui appartiennent au mouvement libertaire et même je crois qu'il y avait des gens de lutte ouvrière également, donc cette gauche radicale qui avait été complété par, ça n'était pas des appels en tant que tels des mouvements, mais par des minorités vertes, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, ainsi qu'une minorité des socialistes autour de composantes, celles qui généralement poussent à l'abstention dans les différents votes, qui posent quelques petits problèmes, pas très graves pour l'instant, à Valls, que ce soit les affligés comme ou les frondeurs comme on les appelle, etc. Et puis naturellement des syndicalistes, alors essentiellement de la CGT et puis de Sud, puis d'autres plus à titre individuel, et puis beaucoup de gens des sociétés civiles qu'on appelle comme ça, hein, des mouvements très forts et très dynamiques en ce moment, très remuants, comme Attaque et d'autres. Voilà, donc c'est avec donc l'idée que il en faudra beaucoup des 15 novembre pour faire reculer Hollande, mais néanmoins cette présence plutôt donc non pas massive comme je l'ai dit, mais plutôt diversifiée avec des ralliements importants peuvent permettre de construire effectivement, enfin, c'est ce qu'espère par exemple au Front de Gauche, un bloc capable de réaliser une véritable opposition, pas seulement parlementaire, mais plus largement dans le combat à la politique menée actuellement par le gouvernement.
Voilà, alors tout ça.
Là-dessus, Michel a d'autres informations peut-être.
D'un autre côté, le PS prépare son congrès, 5, 6, 7 juin prochain. on a le temps de voir venir, mais tout le monde y pense. Et puis l'UMP a essayé le mariage à trois, mais ça marche pas terrible, hein, puisque Sarko, Mariton, Le Maire, ça a fini en autre boudin. Sarko s'est retrouvé, lui qui voulait un petit peu rester sur ses gardes et pas trop s'engager, obligé sous les huées de la foule de dire qu'il abrogerait la loi sur le mariage pour tous. Du coup, on a l'impression qu'à l'UMP, c'est un peu la panique, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'on est en train de perdre le support de la communauté homo, et qu'il faut essayer de rectifier le tir. Enfin, ils se débrouillent avec leurs contradictions, mais c'est vrai qu'il y a une tendance très anti-homosexuelle qui essaie de prendre le dessus dans l'UMP pour tous, qui fonctionne pas vraiment très bien, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ah ben, social, il y a un peu de social quand même, la grève des internes. Je sais bien qu'ils ne sont pas appelés à avoir des revenus à hauteur du SMIC, mais ils s'estiment passablement exploités actuellement avec des 60 heures par semaine, une recommandation européenne demandant de ne pas dépasser 48 dans leur situation. Et puis des patrons qui évidemment ne les suivent pas, puisque c'est grâce à eux que la boutique tourne, et qui leur rappelle qu'ils en ont bavé autant qu'eux, et que c'est très bien que les jeunes en bavent pour avoir les avantages qu'ils auront après. Ils sont 26 000, hein, les internes en France, quoi. Donc ce statut de médecin salarié n'existant pas, ils ont un statut d'étudiant et du coup ils sont assez mal payés. Ils protestent, mais ils travaillent quand même, enfin. C'est aussi la semaine des travailleurs handicapés. On sait que les entreprises de plus de 20 salariés sont légalement obligées d'avoir 6% de travailleurs handicapés et qu'il y en a très peu qui atteignent le quota en question, quoi. Voilà, d'autres sujets. Ben, la Nouvelle-Calédonie, Pépère, il doit y être encore à l'heure qu'il est, hein. Il oscille entre la Calédonie aux Calédoniens ou la Calédonie aux Français. Il botte un peu en touche en supposant que les Calédoniens décident eux-mêmes de leur sort, mais peut-être quand même avec des arrière-pensées, quoi.
C'est la Calédonie que les Calédoniens appellent la Kanaky. Ouais, ils y tiennent beaucoup, oui.
Alors, bon, pays riche en métal, en minerai, mais évidemment pas trop en industrie de transformation, donc d'où le rôle de la France qui compte bien pouvoir continuer à tirer profit de ce tas de cailloux qui a ses indépendantistes très déterminés, quoi.
Juste rajouter que on s'attend donc à un référendum sur l'indépendance d'ici 2018. On ne sait pas encore exactement 2017, 2018, mais que sur place, la situation est vraiment très figé, hein, c'est-à-dire on parle aujourd'hui d'une solution à trouver entre eux, mais la réalité c'est que ce sont deux communautés qui vivent séparées. Elles vivent non seulement séparées, mais ces 10 dernières années, il y a aussi un flux migratoire, non pas de Français venant de l'Hexagone, mais de populations asiatiques et de populations d'autres îles de Papouasie, hein, de Wallis, et qui sembleraient effectivement faire pencher la démographie et tendre à mettre en minorité donc la population d'origine, la population kanak. Et je pense que ce fait-là peut énormément jouer en vue du référendum à venir.
Voilà, un petit mot sur encore une opération de privatisation, hein. Les caisses sont vides pour l'État français, paraît-il, donc on cherche à les remplir en privatisant. Je vous rappellerai pas la scandaleuse affaire des autoroutes, mais on veut nous refaire un peu la même chose avec RTE, qui est le service technique de transport du courant, on va dire une filiale d'EDF, qui pourrait être vendue pour 1,5 milliard d'euros. au prétexte qu'il y a désormais une loi qui s'appelle Florange, la loi Florange, qui donne à l'actionnaire ancien, qui est actionnaire depuis plus de 2 ans, un droit au double des droits de vote, quoi, ce qui permettrait à l'État, théoriquement, de garder son influence dans la nouvelle société. Mais les écologistes font remarquer que céder l'énergie et les transports de l'énergie au moment où il faut prendre le virage de la transition démocratique, le céder donc au libéralisme, c'est sûrement pas un bon choix politique. Est-ce que ça suffira à convaincre Hollande de ne pas poursuivre ce projet? C'est pas évident du tout. Voilà, un autre sujet, Robert, avant qu'on donne quelques infos culturelles.
Non, rien de particulier.
Voilà, on dira un mot, on nous gonfle beaucoup avec la disparition de certains Lucien Clergue, 80 ans. On veut nous le faire passer pour un génie de la photographie. Peut-être que c'était surtout un vieux vicelard qui a passé sa vie à photographier des nanas à poil dans le sable. Il n'y a pas de quoi en faire un héros national quand même. Allez, culturel, c'est le 35e festival du film court de Villeurbanne jusqu'au 23 novembre. Ça a commencé le 14, donc vous trouverez tous les programmes, c'est au Zola, hein, bien sûr, sur Internet. Et puis, samedi, dimanche, ça y est, on y arrive, c'est le Salon des éditions libertaires. Une cinquantaine de stands hein, dans le 4e arrondissement, la maison des associations. Radio Canu sera présent, vous pourrez tous nous rencontrer. Et avant cette semaine, il y a toujours novembre, on s'installe partout. Avec ce soir, il faut courir, hein, si vous voulez absolument le voir et que vous ne l'avez pas vu, Johnny Got His Gun, le film antimilitariste qui est projeté. Il est projeté au Comédia ce soir même à 20h, c'est incessamment sous peu. Demain, par contre, là vous avez le temps de prévoir, au cinéma Saint-Denis, rue de la Croix-Rousse, 77, La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. Jeudi, d'égal à égal de Mélisse et Cordier, encore une projection animée par Alternative Libertaire à la Maison de l'écologie, 4 rue Baudin, dans le premier. Et vendredi, Ortiz, Général sans Dieu ni maître, projection débat, là c'est à Saint-Étienne. Hein. Et puis le concert de la CGA à 20h, à la Plume Noire, 8 rue Diderot, c'est aussi vendredi. Donc samedi, dimanche, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h, des stands, des débats, des projections, des expos, et aussi Radio Canu en direct depuis le Salon des éditions libertaires. Voilà, nous allons arriver tranquillement en musique à la fin de ce Canu Info qui sera diffusé demain matin à 8h. Et ne quittez pas l'antenne, bien sûr. Vous pourrez aussi, il n'y a pas de raison, le réécouter sur Internet d'ici une heure ou deux, plutôt deux qu'une d'ailleurs. Bonsoir et à tout à l'heure pour la future émission et à lundi prochain pour le Canu Info du lundi. Mais chaque soir à 19h, il y a eu Canu Info. Bonsoir. Comme il nous reste une minute, on va dire que si vous pouvez contribuer à la tentative d'achat d'un local de Radio Canu pour arriver à équilibrer notre budget face aux différentes augmentations, donc on sollicite les auditeurs pour nous faire un don dans la perspective d'assurer notre avenir, le pérenniser avec l'achat d'un local.